Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Salut tout le monde, je m'appelle Simon et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Fun for you. Vous le savez, toutes les semaines, on se donne rendez-vous sur le site de Fun Radio, funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast avec un nouveau numéro du podcast Fun for you. Chaque semaine, on va mettre en avant la santé mentale, la vie intime et puis le bien-être. En parlant de bien-être, on est en pleine période de rentrée scolaire et la rentrée scolaire, ça peut générer pas mal de stress, notamment lorsqu'on passe du primaire au secondaire. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast Fun for you. Et mon invité du jour s'appelle Sophie Vandenplas. Bonjour Sophie, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors tu es pédagogue, spécialiste en méthode de travail et formatrice, ancienne prof de français dans le secondaire, tu as travaillé là-dedans pendant 15 ans, et puis créatrice de l'ASBL Out of the Books, dont on parlera un peu plus tard. Alors j'ai voulu t'inviter parce qu'on le sait, on est un peu dans la période de la rentrée scolaire en ce moment, et je me disais, quel conseil est-ce qu'on pourrait donner aux élèves, aux parents et même aux professeurs en cette période de rentrée scolaire?
C'est vrai que la rentrée, c'est générateur quand même de pas mal de stress.
Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui, hier soir, ont peut-être pas très, très bien dormi, et des parents aussi, parce que le stress, c'est les enfants, mais aussi les parents. Mon premier conseil, ce serait vraiment essayer de créer un environnement qui est sécurisant, parce que voilà, c'est beaucoup de nouveautés, on ne sait pas avec qui on va être, etc. Donc un parent qui est calme, qui est cool, qui est relax, ben voilà, c'est contagieux, quoi. Donc je pense que ça, c'est déjà très important. Et puis, c'est reprendre aussi un rythme, hein, ici, parce qu'on sait qu'il y a eu les vacances. C'est se remettre directement dans un rythme scolaire. On sait que les premières semaines, c'est souvent plus cool, mais c'est bien de très vite se remettre dans un travail plus régulier, plus constant. En tout cas, moi, c'est les conseils que je vais donner aux ados qui arrivent en secondaire et qui, généralement, se disent « je commence un peu au mois d'octobre, quoi. Je suis encore en semi-vacances au mois de septembre ». Donc ça, ce serait mon premier conseil, ouais. Revenir à une organisation, à un rythme, à des routines de travail qui se remettent en place rapidement.
Et concrètement, comment on fait pour préparer la rentrée et à quel moment est-ce qu'on prépare la rentrée? Parce qu'il y en a qui se disent « c'est la semaine d'avant, on va aller recoucher à un horaire un peu plus stable ». Il y en a aussi qui gardent des carnets de vacances, par exemple, pendant tout l'été, pour garder un peu le rythme. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner?
C'est toujours bien de les carnets de vacances, c'est une bonne chose. Après, voilà, il faut que ça reste ludique, il faut que ça soit fun. C'est les vacances, quoi. Je veux dire, les vacances, c'est les vacances, l'école, c'est l'école. Donc, moi, je suis assez partisane, en tout cas, de bien faire la distinction et de laisser ces moments un peu plus cool, justement, aux enfants. Maintenant, le fait de réactiver pendant les vacances, c'est excellent, parce qu'on sait qu'après 6 semaines, 7 semaines de vacances, pour certains, bah, y a des petites choses qui sont tombées dans l'oubli. Donc c'est pas plus mal de faire un petit rappel. Maintenant, pour tout ce qui est rythme, oui, je pense qu'une semaine avant la rentrée, c'est bien.
Ouais.
De se réacclimater un petit peu dans ce rythme scolaire, aller dormir plus tôt, reprendre l'habitude de se lever un peu plus tôt, c'est pas mal.
Alors, qui dit rentrée dit aussi gros changement pour certains, notamment on en parlait il y a quelques secondes, mais les élèves qui passent du primaire au secondaire, tu as d'ailleurs écrit un livre, hein, sur le sujet du primaire au secondaire. En tant que parent, par exemple, comment on peut faire pour aider un enfant dans cette transition qui est quand même une grosse transition dans la vie?
Ouais, c'est vrai, c'est une grosse transition, c'est pour ça qu'on a écrit le bouquin, parce que moi, j'ai été professeure en début du secondaire et je voyais vraiment, il y avait énormément de questions, énormément de stress aussi par rapport à cette transition. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, je pense qu'en tant que parent, en tout cas, c'est important d'accompagner l'enfant dans cette transition. Parce que il va devoir s'adapter à toute une série de changements. Le fonctionnement est différent. Souvent, il y a un changement d'école. Il y a même un changement de trajet pour aller jusqu'à l'école. Bref, le nombre de choses qui vont changer dans le quotidien de l'enfant est assez important. Il va passer de 1 professeur à 6, 7, 8 professeurs différents qui ont des attentes différentes. Donc, en tout cas, moi, c'est le conseil que j'ai toujours donné aux parents dans mes classes, c'était de dire ne lâchez pas maintenant. Au contraire, accompagnez-le. Pour certains, ça va être très rapide. Ils vont s'adapter avec beaucoup de facilité. Formidable, tant mieux. Pour d'autres, il faudra peut-être encore leur donner la main pendant un temps. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est logique, c'est une transition logique et on prend le temps de faire ça correctement. Ils vont gagner en autonomie progressivement, mais voilà, ne pas croire que parce qu'ils sont à la grande école, c'est bon, on les laisse faire. C'est parfois l'erreur qui est commise.
Mais c'est vrai que l'autonomie, c'est quelque chose qui prend de la place quand on entre en secondaire. Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient, par exemple, aider les parents ou les élèves?
Il y a plein de choses, parce que l'autonomie, c'est un gros sujet. Il y a l'autonomie au niveau des apprentissages, l'autonomie au niveau des comportements. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. De nouveau, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'autonomie, ça s'apprend.
Ouais.
C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain, parce qu'on passe en secondaire, du coup, on est censé être autonome. Donc, c'est petit à petit, c'est par le fait d'expérimenter, d'ajuster certains comportements. Bref, de réguler, en fait, ces pratiques pour parvenir à trouver les stratégies, tant organisationnelles que au niveau de l'apprentissage qui vont convenir à chacun. Et chacun aura ses stratégies. Donc, le parent, il doit juste éviter d'imposer ses propres stratégies. On a souvent envie de faire ça parce qu'on a envie d'aider, évidemment. Mais vraiment de le laisser tester et de réfléchir avec lui comment ajuster pour arriver à une stratégie qui est efficace et qui convient à l'enfant, quoi.
J'ai l'impression aussi qu'on entend souvent que le passage au secondaire dit l'installation d'un bureau dans la chambre, tu vas faire tes devoirs tout seul dans ta chambre, tu vas être autonome. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Il y a des gens qui préfèrent peut-être faire leurs devoirs dans la salle, enfin dans la cuisine par exemple, à la table. Il y en a qui préfèrent être indépendants. On est tous différents par rapport à ça, ou il est quand même conseillé de donner l'indépendance à l'enfant et lui dire va faire tes devoirs dans ta chambre tout seul et viens me voir au cas où tu as besoin d'aide?
Non, moi je te dirais que c'est vraiment dépendant de chacun. Chacun va avoir besoin de créer son propre environnement. Par contre, c'est une vraie bonne réflexion. Et c'est une forme d'acquisition d'autonomie, c'est dire de quoi toi tu as besoin. Certains vont avoir besoin d'être justement entourés de personnes pour se sentir voilà, dans un cadre qui va les stimuler, qui va... Ouais. Il y a même des jeunes comme ça qui ont pris, je crois que c'était pendant le Covid, ils se mettaient des écrans avec des gens qui travaillaient. Pour se stimuler, pour se dire en fait là ça me donne l'envie presque de me mettre au travail. Certains vont aimer s'isoler, se mettre au calme dans leur bulle, dans leur chambre, et c'est formidable, mais c'est pas la solution qui va convenir à tous. Donc ouais. C'est important d'en discuter et de tester et de se dire tiens, est-ce que j'ai été efficace, est-ce que j'ai pas été efficace, de quoi j'aurais besoin pour être davantage stimulé au niveau de mon attention, au niveau de ma motivation. Et c'est là qu'il va gagner en autonomie, justement.
Mais c'est un peu la même chose dans le milieu du travail, finalement. Il y en a qui aiment travailler dans un open space avec un peu du bruit d'ambiance, etc. Il y en a qui préfèrent être tout seul chez eux en télétravail. On est tous un peu différents par rapport à ça. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre sujet important. C'est les méthodes de travail, puisqu'on le sait, aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes de travail. Alors, toi, tu as expliqué que ta classe était ton laboratoire quand tu étais professeur, dans lequel tu as pu tester, expérimenter des méthodes de travail. Est-ce que c'est important pour toi, aujourd'hui, de repenser et de réinventer un peu la pédagogie par rapport à tout ça et réinventer aussi les méthodes de travail?
Réinventer les méthodes de travail, je ne sais pas si c'est forcément les réinventer, mais en tout cas, prendre du temps avec les enfants ou les ados pour qu'ils trouvent leur méthode de travail, parce que le terme méthode de travail, c'est très vaste, c'est de se dire derrière, il y a des stratégies, et que pour moi, c'est indispensable de se dire quand je suis passée par le primaire, le secondaire, je sors du secondaire, j'ai une mallette remplie de stratégies personnelles, ça veut dire que je sais comment je peux faire pour mémoriser, pour faire une synthèse qui soit pertinente, pour... Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'apprentissage, c'est le fait de se connaître en tant qu'apprenant, et ça doit prendre davantage de place dans nos classes. Voilà, moi personnellement, on m'a jamais appris à apprendre, donc je regrettais un petit peu ça, c'était de me dire finalement, je suis arrivée à la fin de mes études secondaires, j'avais un peu bricolé des petites choses personnelles, mais c'était pas forcément efficace, mais voilà, je m'en sortais. Je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler ça avec les jeunes qui mettent des mots sur tiens en fait quand je dois faire ça, ben je connais ma stratégie, je sais ce qui fonctionne. Et à ce niveau-là, je pense que les écoles sont vraiment en travail par rapport à ça. Le pacte favorise, ça encourage en tout cas le fait de donner un peu plus de place au apprendre à apprendre, que ça fasse partie vraiment de nos manières de travailler avec les jeunes pour se dire non seulement ils ont appris du contenu, c'est formidable, mais en plus ils savent comment gérer ce contenu.
Ce qui était
hyper important, parce que quand ils arrivent à l'UNIF, on est dans une autre transition.
Et il faut apprendre beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement.
Exactement. Et donc, quand j'ai les bonnes stratégies, bah, c'est génial, parce que cette transition-là, elle sera plus facile. Quoi.
Et puis, il y a des nouveaux outils aujourd'hui. Moi, j'ai utilisé, par exemple, pour étudier mon vocabulaire, à l'époque, Quizlet, qui est un outil avec des flashcards, comme on appelle ça, pour faire des jeux, etc., pour apprendre le vocabulaire. C'est la gamification qui apparaît dans tous ces trucs-là. C'est des outils qui sont importants d'utiliser pour toi dans les écoles, ou d'expliquer aux élèves que ça existe?
Expliquer aux élèves que ça existe, les utiliser avec eux pour leur montrer comment on peut en faire un usage pertinent, en tout cas, parce que c'est des outils qui sont pédagogiquement et au niveau méthodologique très intéressants. Après, il y a de tout, il y en a qui vont être très efficaces, d'autres un petit peu moins, mais c'est intéressant. Après, on ne peut pas tout faire avec les apps non plus.
Une des nouveautés d'ailleurs de cette rentrée scolaire, c'est que les téléphones, tablettes et montres connectées sont désormais interdits dans tous les établissements de Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que la technologie a sa place dans les écoles, ou c'est bien que ça reste à la maison?
Ça dépend ce qu'on met derrière le mot technologie. Pour moi, oui, l'ordinateur, la tablette, ce sont des outils de travail, et je pense que c'est intéressant de les éduquer à l'utilisation de tout ça. Les intelligences artificielles, même chose, pour moi ça a sa place, il faut en parler, et si l'école n'éduque pas aux intelligences artificielles, pour moi c'est un manquement. Maintenant, le téléphone, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de dérives.
Oui,
et qu'effectivement,
c'est l'utilisation récréative des téléphones qui est interdite. Bien sûr, les tablettes, etc., des fins éducatives, ça c'est toujours permis.
Oui, voilà. Et pour moi, le téléphone, comme tu dis, utilisation de manière récréative, Oui, les plus jeunes, ils avaient quand même des difficultés à l'utiliser de manière pertinente, avec certaines limites, ils avaient du mal à mettre un cadre, et puis ça a amené des dérives quand même, et ça a fait quelques petits dégâts. Donc,
oui, bon, le harcèlement scolaire par exemple.
Donc non, moi je suis plutôt pour maintenant, c'est de dire, ça ne veut pas dire que la technologie est mise de côté, ça veut simplement dire que le GSM... Au moment de l'école, bon, c'est peut-être pas sa place pour moi.
Mais j'ai d'ailleurs vu que dans certains pays, par exemple le Brésil, ils ont interdit il y a un peu plus d'un an maintenant l'utilisation du téléphone comme en Belgique. Les bienfaits sont présents. Après un an d'application, on remarque une augmentation de la concentration, une augmentation des résultats et de la participation en classe. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats similaires en Belgique ? On espère.
Ah bah, je l'espère en tout cas, oui. Et je pense qu'il y aura des effets très, très bénéfiques, clairement. Parce que, je veux dire, on s'en est passé. Hein. Je veux dire,
on a
survécu. Hein. Donc...
J'aimerais aussi qu'on s'intéresse maintenant à l'association que tu as créée, qui s'appelle Out of the Books, que tu as créée avec ta meilleure amie. Le but, c'est de réinventer la pédagogie face à des nouvelles problématiques et repenser un peu les méthodes de travail dites traditionnelles. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce projet ?
Je t'avoue que l'idée, elle est née vraiment de ma réalité en tant qu'enseignante, de voir... je trouvais que le métier d'enseignant, c'est assez challengeant comme boulot. Il faut se réinventer, il y a toujours plein de changements, plein de modifications. Moi, je crois qu'il n'y avait pas assez d'événements, il n'y avait pas assez de réseautage entre enseignants. Et donc, on est parti de cette idée-là, de se dire que ce serait génial de rassembler les acteurs de l'éducation, les parents aussi, les enfants, pour parler d'éducation, parce que ça nous concerne tous. Moi, j'ai pris conscience qu'il y avait plein d'initiatives formidables qui étaient mises en œuvre en Belgique, mais on n'en parlait pas énormément. Et donc, on s'est dit, rassemblons les acteurs et faisons-leur découvrir tout ce qui existe, toute cette réflexion, parce qu'il y a beaucoup de personnes en réflexion par rapport à l'éducation de manière quotidienne. Et donc voilà, l'idée est née de là, il y a 7 ans maintenant.
Alors, il y a aussi un festival que vous organisez maintenant chaque année, qui aura lieu d'ailleurs début octobre à la Sucrerie à Wavre. On retrouve quoi dans ce festival finalement ?
Alors, on retrouve, il y a à peu près 80 structures qui sont présentes, donc qui proposent de la formation, du matériel pédagogique, des outils, etc. Il y a une quarantaine de conférences qui sont proposées et des ateliers pratico-pratiques. Et puis, on aura aussi tout un village numérique qui sera proposé justement pour parler des technologies, comment les exploiter correctement avec les jeunes.
Et la grosse nouveauté de cette édition, c'est que les parents et les élèves sont aussi les bienvenus. C'est important d'aller à ce genre d'événement, quand on est parent ou élève, d'aller à la rencontre de professionnels.
Pour moi, c'est essentiel parce que la réussite, ça se joue en équipe. Je pense que les enseignants, ils ont besoin de collaborer avec les parents. Les parents ont besoin de comprendre ce qui se passe dans les classes avec leurs enfants. Et donc, c'était vraiment une volonté qu'on avait depuis la première édition, c'est de rassembler tous les acteurs. Et pour moi, on ne peut pas parler d'éducation quand il n'y a pas les enfants et qu'il n'y a pas les parents. Et donc, effectivement, le focus de mercredi 1er octobre, c'est pour les parents. Donc, il y aura pas mal de conférences pour les parents et l'après-midi, des ateliers pour les enfants aussi.
Comment on fait pour venir à cet événement ?
Alors, on prend sa voiture ou on peut même prendre le train pour venir jusqu'à la Sucrerie à Wavre. Donc, c'est toute la journée du mercredi, du jeudi, du vendredi. On a la possibilité de s'inscrire via notre site internet, donc outofthebooks.com. Nouveau site internet, tout à fait. Et les journées de mercredi, jeudi, vendredi sont reconnues comme formation pour les professionnels de l'éducation. Donc, ils peuvent s'inscrire gratuitement. Ça fera partie de leur parcours de formation en cours de carrière. Donc, c'est plutôt chouette. Donc là, il faut passer via le site de l'IFPC.
350 personnes pour la première édition, plus de 3000 pour l'édition de l'année passée. On s'attend à quoi cette année ?
On va dépasser les 4000. Hein.
Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle.
On espère.
Avant de se quitter, quel conseil est-ce qu'on pourrait encore donner aux étudiants ? Parce que moi, il y a une phrase que j'entendais souvent quand j'étais à l'école, notamment la période des examens. On me disait, si tu es en retard, c'est que tu ne t'y es pas pris assez tôt à partir du mois de septembre. On dit souvent que... Et en fait, il faut directement prendre le train tant qu'il est en marche avant de courir après finalement.
Mmh. Oui, moi, c'est le conseil que j'ai toujours donné aussi, donc j'aurais pu te donner le même. Je dirais que mon conseil, c'est d'encourager les élèves, en tout cas, à fixer leurs objectifs ici dès septembre. En fait, c'est quoi leurs objectifs à court ou à moyen terme ? Pour que eux se mettent en action directement, de ne pas attendre les premières interros ou le premier bulletin qui sera pas bon. Et en fait, ce n'est qu'une réaction à quelque chose qui n'a pas été. Donc, je dirais en septembre, qu'est-ce que tu cherches à obtenir cette année? Qu'est-ce que tu veux? Ce qui va permettre la mise en œuvre très rapidement de petites actions dans le quotidien, d'un travail plus régulier. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de cette transition primaire-secondaire. Moi, je le dis en secondaire. La clé de la réussite, c'est la régularité. C'est le fait de travailler de manière régulière, fréquente. qui fait qu'en fait, on n'est jamais débordé, mais on glande plus non plus, quoi.
Oui, oui, parce qu'il y avait toujours ces conseils qu'on entendait. Une fois que le chapitre est terminé, fais déjà ta synthèse, ce genre de truc. Parce que une fois que tu vas arriver en période d'examen, tu vas devoir faire les synthèses de tous tes chapitres et de tous les cours. Ça fait beaucoup de travail. Ouais. Alors que si tu prends au fur et à mesure, normalement, il n'y aura pas de souci.
Exact. Mais moi, je dois quand même le dire, je le vois chaque année, des élèves qui se laissent déborder dès le secondaire. Alors que si on travaille de manière régulière, c'est totalement gérable. Mais les élèves qui attendent la dernière minute ou qui ne travaillent que quand il y a du travail à faire, il y a une période où ils sont dépassés, parce qu'on sait que c'est des périodes très chargées, et puis il y a des périodes un peu plus cool, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Sophie, d'être passée dans cette émission. Tu reviens nous voir quand tu veux.
Génial.
Et puis on vous souhaite de passer une excellente rentrée.
Retrouvez Fun for You avec Parthénamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.